Samouraï, les Nantais ont des choses à écrire sur Jet FM 91.2. Épisode 11, Colline Pierret.
Je suis comme ça. Je n'ai jamais les bons mots au bon moment. Si je les avais, je dirais non plus souvent. Je dirais des choses comme « je ne suis pas d'accord » et « c'est injuste » et « vous ne pouvez pas dire ça » ou « vous ne pouvez pas faire ça » ou encore « ce n'est pas normal » et « vous n'avez pas le droit » et « je refuse ». Ou alors comme Bartleby, le scribe de la nouvelle de Melville que Madame Zao nous a fait lire en cours de français, je dirais « I would prefer not to » et alors « je ne ferai pas ». Ensuite, comme lui encore, je ne dirai même plus, je me tairai et je ferai ce que je veux, car, après tout, si on ne demande pas la permission, on n'a pas besoin de l'obtenir. Et qui sait, peut-être même alors, je dirai des choses moins polies, j'emploierai des mots très très gros et très très bruyants. Mais le plus souvent, je me tais, car mes mots sont timides, mes mots sont fragiles, mes mots sont lâches. Mes mots ne tiennent tête à personne, mes mots rougissent, tremblent, marmonnent. Mes mots ont les mains moites et la bouche sèche. Mes mots ont le cœur qui bat trop vite et le souffle coupé. Mes mots ne savent hurler qu'en silence, hurler seulement lorsque j'écris des poèmes, des histoires, des chansons dans mes carnets.
Colline Pierret est romancière et poétesse. Elle est notamment l'autrice du magnifique « Pourquoi pas la vie » publié chez l'Iconoclaste, qui imagine l'existence qui aurait pu être celle de la géniale Sylvia Plath. Elle a également publié de nombreux ouvrages jeunesse et a cofondé avec Martin Page la maison d'édition associative Monstrographe. Elle est évidemment nantaise et a fait gentiment aujourd'hui le déplacement jusque dans les studios de Jet FM.
Bonjour Colline Pierret.
Bonjour.
Oui, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir ici pour ce premier Samouraï de 2026. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on vous reçoit pour parler de votre dernier livre, Le silence est à nous, paru chez Flammarion, un roman ado, comme on dit, lauréat depuis novembre dernier du prix Vendredi qui récompense la littérature adolescente en langue française.
Oui, c'est le prix Vendredi des lecteurs du Basque Culture.
Ah oui, très bien, merci pour la précision. Ce livre raconte donc l'histoire de liens d'amitié qui se tissent entre deux lycéennes qu'un événement traumatique va réunir malgré elles et qui vont ensemble trouver la force de faire entendre leur colère et leur besoin de justice. Cette histoire, c'est Léonora qui nous la raconte, une jeune fille discrète, mal à l'aise, un peu perdue dans un monde qui semble trop grand pour elle et qui, au début du récit, est témoin d'une agression sexuelle dans les couloirs de son lycée et qui reste sans voix. Ce livre aborde donc des thèmes multiples sur lesquels on reviendra et il interroge notre capacité à s'indigner, mais surtout notre capacité à écouter et à être écouté. Vous déployez une écriture empreinte de poésie, de sobriété au service d'un récit très riche, intense et qui nous touche assurément. Alors qui nous touche par les thèmes abordés, on y reviendra comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui nous touche aussi en premier lieu par sa forme puisque vous avez choisi d'écrire en vers libre. Et ce qui donne un certain ton, un certain rythme, je trouve, à la fois réfléchi et très efficace. Alors, pourquoi ce choix et qu'est-ce que permet cette forme d'écriture, d'après vous ?
L'écriture en vers libre, c'était une forme que j'avais envie d'essayer déjà par simple curiosité, on va dire, parce que j'écris de la poésie par ailleurs, j'écris des romans, et j'avais envie de voir aussi ce qui se passait quand on mêlait les deux. Et dans ce livre-là, je trouvais que ça avait un sens tout particulier parce que le livre parle beaucoup du silence et de l'idée de faire de la place au silence, de faire entendre ce silence. Et l'écriture en vers libre, ça crée quelque chose sur la page qui fait que ça rend visible le silence, l'absence de mots, l'absence d'écriture. Et du coup, chaque page aussi raconte quelque chose d'un point de vue sensoriel, autre que par le seul sens du livre. Et donc, ça m'intéressait de faire dialoguer ces deux manières d'appréhender la question du silence. Et c'était aussi une manière de laisser de la place à l'écriture, à toutes les formes en fait, de langage, autre que la parole et que le dialogue, parce que Comme elles font une grève de la parole, elles vont beaucoup discuter en employant des médiums alternatifs par écrit, par texto, par affiche, par les articles de journaux, etc. Il y a plein de formes différentes et toutes ces formes-là, elles s'intègrent très bien aussi dans un récit en vers libre, donc ça me permettait de leur laisser beaucoup de place aussi.
D'accord. Et puis, l'autre thème principal du Silence est à nous, c'est la place, évidemment, des femmes dans notre société et les violences faites aux jeunes filles et aux femmes. Et ce constat que sur ce sujet, il faut sans cesse recentrer le débat et que c'est avant tout un schéma de pensée qu'il faut déconstruire et redéconstruire. Et d'ailleurs, les profils très variés de vos personnages disent que ce n'est pas une question ni de génération, ni de genre, mais que la domination, elle se joue à travers des comportements intériorisée d'une part par les hommes. Vous écrivez, Ethan est un type avec la confiance de son genre, la confiance de sa beauté, la confiance de son fric, la confiance de son pouvoir. Alors Ethan a décidé de prendre ce que Mariam lui a refusé. Le pire, dit Mariam, c'est que je ne crois pas qu'il soit diabolique. Ce n'est qu'un connard ordinaire, un type élevé dans un monde où les hommes se servent dans le corps des femmes comme dans le placard de leur cuisine. Et à l'inverse, les filles intériorisent tout un tas d'autres comportements, et elles, en particulier, elles ont intériorisé la vulnérabilité de leur corps, tel qu'il est envisagé dans nos sociétés, et la difficulté, vous écrivez, d'échapper l'espace d'un instant à ce fait encombrant, être une fille dans un monde sexiste, vous écrivez aussi, c'est fou la place qu'il y aurait dans nos têtes si elle n'était pas encombrée par la peur. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder ce sujet? Qu'est-ce qu'il se joue, et pourquoi en particulier c'est important de le faire dans un roman ado?
J'avais envie d'aborder ce sujet parce que, comme plein de monde, je pense, j'ai mangé beaucoup de théories féministes ces 10 dernières années. Et j'ai déconstruit plein de choses. Et je me suis demandé quel rôle je pouvais avoir en tant que romancière dans ce combat-là, dans cette réflexion-là, que n'apporterait peut-être pas la théorie, justement, ou qui manquerait, et ça m'intéressait d'aller voir voilà, comment le roman peut aussi inventer des scénarios qui mettent en scène toutes ces questions-là et qui donnent aussi des pistes de réflexion, qui donnent des pistes de sortie. Et puis, il y avait cette grande question qui est, comme moi, j'ai découvert tout ça adulte, en fait. Je ne me suis pas construit avec ces réflexions-là. Au contraire, je me suis construit dans les années 90-2000, donc dans un monde très sexiste. Et je me demandais aussi ce que ça fait de grandir adolescente avec ces questions-là, avec ces discours-là dans l'espace public, dans les médias, partout, même si ça concerne peut-être encore qu'une fraction de la population. C'est présent, c'est voilà, tous les procès, toutes les réflexions, les lois qui changent, ça concerne quand même tout le monde. Donc je me demandais ce que c'était d'être ado dans ce monde-là, avec à la fois cet espoir-là, peut-être que les choses commence un peu à bouger, et puis cette conscience tellement forte aussi de la domination qui s'exerce sur elles et des limites de leur liberté. Et donc, je trouvais ça particulièrement intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'on en fait quand on est adolescent, ouais, et quand on est confronté à ça.
Cette réalité un peu schizophrène entre le discours et puis les faits. Et, ouais. Tout n'est pas toujours très cohérent quoi, dans la réalité.
Ouais.
Il y a une autre question aussi, c'est la difficulté de se positionner justement dans cette société très genrée, dans cette société sexiste. À un moment, Léo, elle dit « Je voudrais pouvoir pointer un endroit dans le spectre et dire « c'est là, c'est moi ». Ça aussi, c'est une question qui prend beaucoup de place dans le livre. La question de se définir ou pas.
Oui. Oui, parce que je pense que c'est une question qui est très puissante à l'adolescence, qu'il est encore adulte sans doute, mais l'adolescence c'est quand même un moment de la vie où cette question de savoir qui on est, elle est hyper brûlante, parce que voilà, on sort de l'enfance, on sort de cette, je dirais pas insouciance, mais en tout cas de cette évidence de la construction identitaire qu'on a quand on est enfant. Et on ne sait pas qui on va devenir, en fait. On ne sait pas quel adulte on veut être. On doit décider toutes ces choses-là. Elles se font pas si naturellement que ça. Et il y a plein de... En tout cas, elle se pose la question. Et pour elle, il n'y a pas quelque chose de naturel chez elle. Donc j'avais envie de faire de la place à ça. Faire la place à ça par notamment la question du genre qui l'interroge, elle, plus particulièrement. Mais je pense que chacun de ces personnages enfin des personnages du livre à sa façon s'interrogent sur qui il est et sur son,
oui, sur sa propre identité,
ouais,
et
sur ce qu'il veut devenir, sur son rapport à l'école, sur son rapport à l'adulte qu'il va être, voilà. Donc je trouvais ça intéressant d'aller aborder cette question de plein de par plein de facettes différentes et de les mettre chacun à un endroit différent aussi.
Le livre Le silence est à nous aborde la question beaucoup de la recherche identitaire individuelle, de l'affirmation de soi que tous les adolescents traversent à un moment ou à un autre. Mais il y a aussi le questionnement identitaire, enfin, de l'identité de toute une génération, justement, c'est ce que vous disiez. Donc la quête générationnelle pour ces adolescents qui grandissent dans un climat pour le moins anxieux. Et ce personnage, Léonora, elle s'interroge souvent sur le temps d'avant, j'ai l'impression, et sur le temps qu'ont pu vivre ses parents, et comme le temps s'étirait avant, comme il était plus long. Alors comment vous y êtes prise pour infiltrer cette génération, et puis pour... Enfin, pas pour infiltrer cette génération, mais pour autant saisir, parce que, vous l'avez dit, comme moi, vous ne faites pas partie de cette génération, tout petit peu plus âgée. Donc, dans les remerciements, vous faites référence à certaines personnes qui vous auraient aidé, notamment sur la relation des ados aux réseaux sociaux. Et...
Oui, c'est nourri de plein de choses. En fait, moi, je suis, en tant qu'autrice jeunesse, j'interviens beaucoup déjà dans des établissements scolaires. Donc, je passe beaucoup de temps dans des collèges et dans des lycées où je vois beaucoup les ados. J'ai pas forcément beaucoup de retours directs sur leur pratique parce que la plupart du temps, je les vois une fois, deux fois, donc pas assez longtemps pour qu'on puisse nourrir une réflexion un peu approfondie sur ces questions-là, mais j'observe déjà. Et puis, je discute beaucoup avec leurs enseignants et leurs enseignantes qui, elles, me parlent beaucoup aussi de qui sont les ados. J'entends aussi plein de discours, des fois... que je trouve vraiment des positions d'adultes, on va dire, et puis d'autres qui n'ont pas, qui vraiment essaient de comprendre, essaient de chercher comment on grandit dans ce monde-là et qu'est-ce qu'on vit en étant adolescent maintenant. Et donc voilà, c'est nourri de toutes ces choses-là, c'est nourri de lectures, c'est nourri de discussions. C'est passé par les réseaux sociaux aussi, où j'avais questionné mon réseau sur les usages des réseaux sociaux et l'écrit des adolescents avec qui ils sont en contact. Donc j'ai eu des réponses de parents et puis de profs aussi. J'ai beaucoup de profs dans mon entourage. Et après, j'ai eu quand même pas mal d'échanges vraiment plus précis sur les questions, notamment des violences sexuelles en milieu scolaire et de la prise en charge de ces violences sexuelles avec des profs, avec beaucoup de profs, et puis notamment des enseignantes qui sont référentes égalité. Donc c'est les personnes qui s'occupent dans un établissement scolaire, en lycée, peut-être en collège aussi, je ne sais plus, vraiment de toutes les questions de discrimination, de violence sexuelle, de violence de genre, qui mettent en place des formations, qui mettent en place des espaces de discussion, de ressources pour les élèves, etc. Donc, qui sont vraiment au fait de toutes ces problématiques-là, et puis qui sont à chaque fois consultés ou témoins quand il y a des histoires de violence, de viol, d'agression dans des établissements scolaires. Donc ça, j'ai échangé avec plusieurs de ces enseignants.
Et là, c'est le rôle que joue Madame Lindgren dans votre
roman. C'est le rôle que joue Madame Lindgren, ouais, exactement. La professeure documentaliste, et c'est souvent, assez souvent, des professeurs documentalistes.
Tout au long de ce livre revient le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Mais alors ce sentiment, on l'éprouve comme Léo, évidemment, face à des gens qui sont dans le refus, puisqu'elles sont confrontées à un moment de leur histoire à des personnes qui se posent clairement dans le refus, dans le déni. Mais parfois, on ne se sent pas écouté, même par des gens qui sont pétris de bonnes intentions. Et pour Léo, c'est aussi ce qu'elle ressent, même dans le cercle intime familial. Alors, ses parents sont pourtant des gens qui ont l'air très ouverts d'esprit, très militants, on pourrait dire bienveillants. Et pour autant, elle n'arrive pas tout à fait à les toucher le soir où elle voudrait enfin leur confier son secret. Elle dit « Ce soir-là, je comprends vraiment qu'il n'y a pas de place pour les mots compliqués dans le quotidien saturé d'une famille. » Alors écoutez, est-ce que c'est si difficile? Et écoutez les ados, justement, par c'est pas un fossé générationnel, parce que j'ai pas l'impression qu'entre ses parents et Léonora, il y a vraiment un immense fossé, mais il y a quand même quelque chose d'infranchissable. Est-ce que même avec tout l'amour du monde, écouter, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué?
Oui, je crois. Et puis, je pense que quand on est parent, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. On sait qu'on est prêt à les écouter dans la théorie, mais il y a plein de choses comme ça sur lesquelles, entre notre position théorique et puis la réalité, il y a un petit gouffre de pratique, enfin dans notre manière d'être. Et là, c'est vraiment ça. Je pense que ses parents, dans la théorie, ils ont envie de l'écouter, ils sont prêts à ça. Mais en fait, il n'y a pas de place, effectivement, parce que l'écouter, ça veut dire bouleverser quelque chose dans leur vie, bouleverser quelque chose dans leur croyance, bouleverser quelque chose dans leur rapport à l'autorité, à ce que représente l'école, à l'aspect non protecteur de l'école.
C'est ouvrir une porte vers l'inconnu, quoi.
C'est
vers
ça. L'inconnu. Ouais. C'est ça. Et c'est trop pour
quand
eux.
Quand les parents, c'est beaucoup.
Ouais, voilà. Ils sont pas prêts à ça. C'est pas conscient, évidemment. Ils vont pas se dire, je ne veux pas l'entendre. Pour eux, ils veulent l'entendre. Mais c'est le cas aussi d'autres adultes dans le lycée. C'est le cas de plein de gens. En fait, on a plein de, on pense qu'on veut entendre, mais on ne veut pas entendre les conséquences que ça aurait sur nos vies. C'est ça la grande difficulté, je pense.
Et c'est ce qu'on comprend. Je dois dire que ce passage, il est un petit peu dur à lire en tant que parent. Parce que mais bon, comme ça, ça nous permet de réfléchir à certaines solutions et certaines possibilités. Alors ce titre, Le silence est à nous, vous confiez aussi à la fin du livre qu'il a été, que vous avez beaucoup hésité sur le choix de ce titre. Alors pour quelle raison et puis pourquoi celui-ci finalement?
Oui, on a passé beaucoup de temps à chercher un titre avec mon éditrice et je lui en ai proposé des listes entières.
Ah oui.
Qui tournait autour de silence et du silence et de cette idée de collectif. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé de réfléchir à tous les thèmes qui étaient présents dans le livre. Quel titre, c'est toujours compliqué, synthétise toutes ces idées-là en quelques mots. Et puis
sans révéler aussi le contenu.
C'est ça, ouais. Mon éditrice, je voulais pas que ce soit trop littéraire. Moi, je voulais pas que ce soit. Enfin, je voulais quand même un beau titre. Enfin voilà, il y a toujours plein de compromis aussi à faire dans un titre, parce qu'il faut qu'il soit accrocheur, il faut qu'il donne envie de lire. Voilà, c'est aussi un objet commercial, et moi, c'est pas forcément l'aspect sur lequel je suis le plus douée. Et puis, donc, on en a cherché plein, et puis on est arrivé à celui-là dans une liste. Voilà, il a apparu, et puis je l'ai relu plein de fois, et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est lui, c'est celui-là, parce qu'il y avait le collectif qui, moi, m'importait beaucoup. Il y avait le mot silence, et puis il y avait la réappropriation de quelque chose, cette espèce de retournement du stigmate où on t'assigne le silence, et ben on récupère le silence, on en fait quelque chose. Il y avait le combat, il y avait quelque chose de vivant aussi dans l'action qui me plaisait.
Ouais, la place du collectif, comme vous disiez, elle est très importante. C'est avant tout l'histoire de la force d'une amitié naissante et de la force de tout ce qu'on peut soulever et de tout ce qu'on peut mettre en branle à la force du collectif, quoi.
C'est ça, ouais, complètement.
Vraiment. Alors, il y a un autre thème aussi, mais qui n'est pas d'ailleurs présent seulement dans ce livre, c'est Léonora, elle se dévalorise beaucoup, elle culpabilise sans cesse de ne pas avoir réagi, elle reste un peu comme prisonnière tout le temps de ses pensées culpabilisatrices. Et moi, je trouve qu'elle manque beaucoup de discernement parce qu'en réalité, elle entreprend beaucoup de choses cette jeune fille. Oui. Elle n'est pas passive du tout. Et ce thème de la timidité et de l'introversion, vous l'avez d'ailleurs souvent exploré. Vous avez même publié en 2021 « Introverti, mode d'emploi, guide de survie révolutionnaire à l'usage des discrets, des timides ». Et enfin, le titre est plus long que celui-ci, oui. Mais voilà. Alors, c'est un thème qui vous est cher, ça, l'introversion, la timidité.
Oui, c'est un thème qui m'est cher parce que moi, je viens de là. Je suis cette personne. Et qu'on fait beaucoup de place dans la société aux personnes qui prennent la parole, qui prennent de la place. Globalement, c'est un monde qui est plutôt organisé pour les personnes extraverties, pour les personnes qui savent se mettre en avant, qui savent prendre la parole quand elles en ont besoin, qui savent s'imposer.
Et c'est très valorisé, savoir le faire. Voilà.
Donc j'avais envie un peu, moi c'est mon truc aussi, d'aller chercher un peu les contradictions et puis d'aller revaloriser les choses qui sont dévalorisées. Donc la question de l'introversion, elle me travaille depuis longtemps et je pense que à peu près tous mes personnages sont introvertis. Ouais. Et j'aime bien cette idée de leur montrer à ces personnages qu'en fait, il y a d'autres manières d'agir. Ils n'ont pas besoin d'aller crier au milieu d'une manif, ils n'ont pas besoin de prendre toute la place, ils n'ont pas besoin de s'imposer aux autres. Ils peuvent aussi faire avec qui ils sont, trouver des manières alternatives de s'exprimer, trouver des manières alternatives de se faire entendre. Et voilà, et c'est ce qui se passe dans Le silence est à nous, précisément. Ouais, c'est vraiment littéralement ça, quoi. C'est comment les introvertis vont réussir à aller prendre la place, ouais, et à agir.
À devenir visible sans pour autant, ouais, prendre toute la place, quoi.
Oui, c'est... complètement. Ouais.
Et puis, je trouve que, voilà, pour en finir sur ce livre, avant d'aborder un peu d'autres choses, je trouve que ce livre dit aussi tout votre amour des mots. Alors, pour leur diversité d'abord, parce que alors vous les qualifiez de tout un tas d'adjectifs. Vous parlez des mots brûlants, des mots fragiles, des mots qui rugissent, qui tremblent, qui marmonnent, des mots qui font du bruit, des mots qu'on étire comme du chewing-gum, des mots tranchants, aiguisés, des mots ratatinés et ceux qui sont trop grands. Enfin, j'aurais pu aller piocher encore beaucoup dans le livre. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, votre amour des mots pour leur diversité et puis aussi pour leur pouvoir et l'absolue nécessité de réussir à les saisir et la difficulté de pouvoir les choisir. Vous écrivez quand j'écris justement. Quand j'écris, enfin les mots ne m'échappent plus. Alors quelle relation vous entretenez aux mots ? Est-ce que c'est une relation un peu obsessionnelle ou...
C'est une relation paradoxale, on va dire, parce que... J'ai vraiment une très grande différence entre mon rapport aux mots dans la parole et dans l'écrit. Voilà, c'est mon côté introverti sûrement, mais moi, par l'écrit, je trouve mes mots, je formule mes idées, je comprends ce que je pense. Il y a vraiment un effet un peu révélateur de la parole dans les mots et dans l'écriture. Et aussi très agréable, du coup, parce que je vais découvrir des choses, parce qu'il y a une espèce de fluidité. J'écris des phrases et je me dis « Ouh, cette phrase est jolie !» Et pas du tout avec la parole. Pour le coup, j'ai vraiment... Les mots ne viennent pas, en fait. Je cherche mes mots, je ne trouve pas le bon adjectif, je pense à quelque chose et je n'arrive pas à... Voilà, il y a ce truc où le mot m'échappe tout le temps quand je parle. Et c'est très frustrant. Et donc, voilà, j'ai ce rapport-là, à la fois amoureux, vraiment, du langage, des mots, de tout ce que ça permet de créer, de dire, d'enjoliver aussi, comment on peut mettre de la poésie, on peut rajouter des couches de sens aussi avec, je sais pas, les métaphores. Moi, j'adore les métaphores, les comparaisons, parce que ça amène encore une épaisseur, on va dire, au réel. Et cette grande frustration aussi que des fois les mots soient si compliqués à attraper et à comprendre. Et aussi, il y a cette question-là que j'aborde dans un recueil de poèmes qui s'appelle Une grammaire amoureuse, c'est la place du langage dans la relation amoureuse, mais on peut dire dans la relation en général, c'est-à-dire on utilise des mots pour dire des choses et puis l'autre ne les comprend jamais de la même façon parce qu'on ne met jamais le même sens derrière un mot, on ne met jamais le même vécu, on n'a pas la même histoire. Et donc il y a aussi cette espèce de rupture fondamentale du langage qui fait qu'on a chacun un langage à soi et jamais on utilisera les mêmes mots. Et je trouve ça à la fois désespérant et fascinant et très très beau aussi.
Ouais. Alors c'est vrai que vous aviez, donc, comme vous l'aviez, vous l'avez publié une grammaire amoureuse. Ici vous parlez aussi des relations comment on pourrait dire, on va pas dire amoureuse, mais enfin aussi des relations.
Tu peux, ouais. Sûr, ouais.
Et vous avez aussi publié un autre roman ado qui s'appelait En couple.
Ouais.
Alors, est-ce que votre intérêt pour cette question, elle est d'autant plus importante que je crois qu'il y a aussi, en littérature adolescente, tout un mouvement aussi de récits, de romances qui sont... Il y a un fossé énorme entre le combat... où en est le combat féministe aujourd'hui et les discours par rapport à la société sexiste et ce que véhicule ce genre de roman ado.
Ouais.
Alors, est-ce que pour vous, c'est vraiment important pas de lutter, mais je veux dire de proposer autre chose, quoi.
Oui, je pense que c'est important que les deux cohabitent, en tout cas, parce qu'il y a effectivement ce courant de dark romance qui peut être assez effrayant. Après, je sais pas, moi, je suis toujours un peu ambivalente sur cette question-là, parce que quand j'étais adolescente, je lisais des trucs hyper trash aussi. Mmh. Alors, pas de dark romance, mais des trucs... je sais pas, Hubert Selby Junior ou L'Herbe Bleue ou des trucs, voilà, ça parlait de drogue, de prostitution. Je me suis aussi nourrie de ça, donc j'imagine qu'il y a un passage aussi de l'adolescence où on va chercher peut-être une espèce d'extrême et d'intensité des sensations dans la littérature qu'on trouve pas dans la vie, sans, j'espère, que ça construise nos relations et nos rapports. Mais néanmoins, moi, ça m'intéresse évidemment d'aller proposer une espèce de contre-récit. Et même plus largement, je pense même hors de la dark romance, en fait, ça fait des centaines d'années que les romans nous racontent des histoires d'amour qui sont... la plupart du temps, des histoires de domination. Alors, c'est une espèce de domination soft, mais c'est quand même des histoires souvent patriarcales. C'est quand même des histoires... ou même chez Jane Austen, que j'adore, les femmes tombent amoureuses quand même du mec qui est un peu un sale con, en fait. Donc, ça m'intéresse d'aller donner d'autres modèles d'histoire, d'autres représentations masculines, d'autres représentations féminines, d'autres... histoires d'amour qui finissent pas par le couple, d'aller chercher aussi tous les récits qui existent dans la vraie vie, qui sont en demi-teinte, qui sont pas aussi absolus et intenses peut-être que ce qu'on a beaucoup lu dans les histoires, mais qui disent quelque chose, qui montrent aussi des voies possibles, des rapports à l'amour possibles. Hello darkness, my old friend, I've come to talk to you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Dans cette émission, Samouraï, on s'intéresse aussi aux rituels d'écriture. Voilà. Alors, est-ce que vous en avez des rituels d'écriture ? Comment est-ce que vous vous mettez au travail ? J'ai pas de rituel très ritualisé, mais je bois du café, voilà. Ouais. Non, en fait, je travaille un peu partout. Je travaille chez moi, à mon bureau, je travaille dans des cafés. J'aime bien commencer ma semaine, voilà, au café ou à la bibliothèque, être hors de chez moi.
D'accord.
Pour débuter. Mais ensuite, globalement, j'ai un enfant, j'écris quand il est à l'école. Parfois un peu le soir, je triche, mais c'est ça mon rituel, quoi. C'est d'être limitée par les horaires scolaires et donc de me dire que voilà, je vais devoir intégrer ma journée d'écriture là-dedans.
D'accord.
Mais sinon, non, je travaille dans les trains, dans les hôtels, voilà, j'emporte mon ordinateur et je fais ma bulle toute seule.
Bah, bravo, c'est pas facile. Justement, puisqu'on parlait des mots tout à l'heure, si vous deviez choisir un mot qui résumerait ou que vous pourriez associer à votre travail ou à l'origine de votre projet d'écriture. J'aurais dû vous envoyer un mail à l'avance.
j'en donnais deux. Il y a un mot que je trouve très beau déjà pour sa sonorité et puis son sens, c'est murmuration. C'est le bruit, enfin c'est pas le bruit, c'est le nom en fait du vol des étourneaux en groupe. Voilà, ça s'appelle une murmuration.
C'est très joli, c'est murmuration. Très
voilà.
Je ne connaissais pas.
Ça colle un peu avec cette idée du silence Et sinon, plus c'est moins un mot que j'aime pour sa sonorité, mais c'est que j'aime pour son sens, c'est tendresse. Parce que je pense que c'est mon grand, ma grande recherche, mon grand combat dans la littérature, que d'essayer de valoriser aussi cette question de la tendresse et d'en faire une émotion aussi valable et aussi puissante que l'amour, que la colère, que d'autres plus valorisés habituellement.
C'est vrai, ça nous laisse songeurs. Et puis la toute dernière question, et c'est que je demande si vous deviez associer une musique, pareil, à votre univers, à votre travail, qui fait aussi office de générique.
Ça, c'est plus dur d'en choisir une. Peut-être qu'il y a une musique qui est une... Alors, ça ne va pas être très original, je pense, mais c'est une musique d'écriture vraiment très... efficace, on va dire, c'est la musique de Philip Glass, parce que le côté, y a quelque chose de, c'est à la fois très mélodieux et très minimaliste, très entêtant en fait, comme c'est toujours des formes qui se répètent, qui tournent en boucle. Il y a une intensité qui va bien avec l'écriture, qui fait très musique de film et donc qui peut porter quand on écrit. Et puis il y a quelque chose de très d'aussi obsédant que l'écriture dans sa musique, et du coup ça correspond
parfait
bien
pour rentrer dans le tunnel de l'inspiration. Ben, merci beaucoup Colline Pierret pour cet entretien. Je rappelle qu'on peut trouver, enfin qu'on peut lire Le silence est à nous, qui a été publié chez Flammarion. Je vous encourage vraiment à le lire, les adultes, les ados. Merci beaucoup en tout cas,
merci
pour votre temps.
Samouraï, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Cette émission a été réalisée avec l'aide d'XM Tran à la technique, et vous pourrez la réécouter sur le site jetfm.fr. À très bientôt, un prochain jeudi, à la même heure, pour un nouveau Samouraï.